Bonsoir, comment allez-vous ? On parle beaucoup d'eau, EAU, en ce moment avec de grands discours pertinents et alarmants. L'eau qui noie, l'eau qui manque. Cette eau a un poids politique et un poids tout court. Un litre pèse un kilo, pour une fois c'est simple. Une douche, en moyenne 50 litres, 50 kilos. Une consommation quotidienne au 21e siècle pour une personne vivant en France, 125 litres, 125 kilos. Vous imaginez une seconde qu'on aille les chercher à 500 mètres de la maison ? Rappelez-vous, c'est pendant une corvée d'eau que la petite Cosette de Victor Hugo a rencontré Jean Valjean. Dans le monde, beaucoup plus d'humains vivent loin d'un point d'eau que près d'un robinet. Alors, je vous propose une petite expérience à faire avec les enfants pendant les vacances, par exemple. Portez sur 500 mètres le poids d'une douche. 25 kilos. Allez, je suis bonne fille, je vous la fais à 20 litres. 10 kilos par sac, 10 kilos par bras, sur un terrain en pente, bien sûr. Tout le monde n'habite pas en Hollande. Ah, mais vous avez le droit à plusieurs voyages. Ça tire quand même sur les épaules, hein ?
Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 14 ans et j'aimerais savoir si, vous savez, quand on creuse le sol, s'il y a un moment, on va tomber forcément sur une nappe d'eau dans le souterrain. Voilà, merci, au revoir.
Ah, c'est extra. Si on creuse, est-ce qu'on va forcément tomber à un moment donné sur de l'eau ? Jérôme Gaillardet, vous êtes agrégé de sciences naturelles, professeur à l'Institut de physique du Globe de Paris. Si Arthur creuse.
Alors si Arthur creuse, oui, il va trouver de l'eau. Il va trouver de l'eau quasiment partout à la surface de la planète. Nous vivons sur une éponge. Et du coup, il est très important de préciser ce concept de nappe d'eau. Hein. Je crois que Arthur nous a parlé, voilà, de la nappe, qui est un terme qu'on utilise beaucoup dans le langage courant. En fait, il n'y a pas des lacs sous nos pieds. Il y a de l'eau partout, mais c'est une eau qui est contenue dans les pores, dans les interstices laissés entre les grains qui constituent les roches. Si on regarde une roche au microscope, on va voir des grains. Et entre ces grains, soit il y a de l'air, mais c'est très rare qu'il y ait de l'air, soit il y a du pétrole, ça s'appelle un gisement de pétrole, soit il y a de l'eau. Et c'est le plus fréquemment, c'est de l'eau. Nous vivons sur une éponge. Alors, il y en a plus ou moins selon que la roche est poreuse ou ne l'est pas. Donc, dans les terrains qui sont des terrains qui contiennent des roches très peu poreuses, comme par exemple les granites chers à nos Bretons, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais il y en a. Mais il n'y en a pas beaucoup. Alors que si on va vers des roches qui sont les roches qu'on appelle les roches sédimentaires, qui sont souvent des roches très poreuses, comme les roches du bassin de Paris, alors là, on va trouver énormément d'eau. Alors en creusant, Arthur va trouver de l'eau. Alors il peut en trouver à 2 mètres, s'il n'est pas très loin d'une rivière, mais il peut en trouver à des kilomètres, s'il a suffisamment d'argent pour creuser profondément. Et tout partout à la surface de la Terre, y compris au milieu du Sahara, puisqu'on sait qu'au milieu du Sahara, il y a une nappe d'eau souterraine qui est très ancienne, qui ne s'est pas du tout formée dans les conditions de climat saharien actuel, mais qui est une nappe avec beaucoup d'eau.
Alors si je comprends bien, Jérôme Gaillardet, si on creuse, où qu'on soit, on finira toujours par tomber sur de l'eau, mais pas forcément de l'eau liquide où on peut envoyer le seau au fond du puits, si
voilà,
c'est de l'eau dans les roches.
Voilà, et ça on le sait, les sourciers le savent, quand vous creusez, vous tombez pas sur de l'eau. Il faut attendre un certain temps pour que l'eau remplisse le trou.
Mais Jérôme Gaillardet, cette eau qu'on finit par trouver en creusant tout de suite ou bien plus profond, c'est de l'eau qui a quel âge à peu près ?
Alors, le problème de l'âge de l'eau n'est pas un problème facile. Disons que ce qu'on sait dire, c'est depuis combien de temps elle est là ? Combien de temps elle a résidé à l'endroit où elle est ? Donc, une nappe, ce qu'on appelle les nappes alluviales, c'est-à-dire ces nappes d'eau que l'on trouve au bord des rivières, L'eau n'y réside que quelques années, voire quelques dizaines d'années. C'est très court. Mais par contre, les scientifiques viennent de découvrir dans certaines régions du monde qu'on pensait être des régions très sèches, des nappes souterraines, et on réussit à démontrer que cette eau est là depuis des milliards d'années. Ce qui signifie qu'elles ont enregistré, elles se sont formées à une époque où la Terre était fondamentalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Imaginez, pas de vie. Imaginez une atmosphère totalement différente, irrespirable pour nous aujourd'hui. C'est absolument fantastique.
Si cette eau pouvait parler, que nous raconterait-elle ?
Elle parle. Elle parle avec un langage à elle, mais elle raconte énormément de choses sur les êtres vivants qui vivaient à l'époque, puisque les rares êtres vivants que l'on est susceptible de trouver dans ces eaux-là sont les êtres vivants de l'époque. Donc elle nous renseigne beaucoup sur l'origine de la vie, sur l'histoire de la vie sur la planète.
Eh oui, on pense que l'eau, ce n'est rien parce qu'elle est transparente. Jérôme Gaillardet, agrégé de sciences naturelles, professeur à l'Institut de physique du Globe de Paris. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Les enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Ce soir, vous avez demandé si seuls les adultes peuvent être pédophiles. Pourquoi les animaux tournent avant de se coucher et comment la peste a disparu? Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Jeanne Le Goutre. J'aimerais savoir comment Ève et Adam se sont formés. Merci de me répondre.
Ève et Adam, tu le prononces à l'anglo-saxonne et pourquoi pas. Delphine Horviller, vous avez écrit en tenue d'Ève, féminin pudeur et judaïsme, en format poche au point, poche. Alors, comment se sont-ils formés, demande Jeanne, Adam et Ève?
Comment l'humanité est apparue, c'est une question centrale, essentielle. Alors bien sûr, à cette question, la science apporte des réponses essentielles et pose continuellement de nouvelles questions. Mais les récits religieux, eux, et notamment ceux de la Bible, vont offrir comme des récits parallèles. C'est comme une poésie, un récit sacré que chaque génération va transmettre à la suivante. Pas forcément pour y croire littéralement, mais pour hériter d'un langage ou d'une histoire de référence. Alors la Bible commence par ce récit de la création du premier homme qu'on appelle Adam en hébreu, exactement comme tu viens de le prononcer. Au départ, Adam, il est tout seul, selon la Bible. Il est créé à partir de la terre dans laquelle Dieu souffle pour donner vie. Et Adam, en hébreu, ça veut dire fait de terre. Et puis, la Bible raconte qu'il n'est pas bon pour cet homme d'être tout seul et Dieu va alors créer à ses côtés un partenaire sous les traits d'une femme. À partir d'une côte, disent certains, à moins qu'il s'agisse d'une mauvaise traduction de l'hébreu, qui suggère en fait que la première femme est sortie non pas de la côte d'Adam, mais à côté d'Adam.
Ah.
Et toujours est-il que ce premier face-à-face de l'histoire, selon la légende, va donner naissance à l'humanité tout entière.
C'est pas un face-à-face, c'est un côte-à-côte.
C'est un côte-à-côte, exactement. Et on serait tous, d'une manière ou d'une autre, les descendants de ce couple originel, ce qui symboliquement fait de nous des membres d'une seule famille, d'une famille à l'origine commune, un seul couple à l'origine d'une humanité tout entière. Ça permet d'envisager un certain idéal d'universel, l'idée d'un monde partagé, loin, je crois, des replis de chaque groupe, de chaque famille, de chaque religion, de chaque particularisme sur lui-même.
Ça rappelle qu'on se ressemble plus qu'on ne le pense.
Qu'on partage beaucoup plus qu'on se l'imagine parfois ou qu'on se le dit. Et je crois que cette idée, elle est importante à méditer en des temps comme aujourd'hui où on assiste parfois à des replis identitaires. Certains s'imaginent qu'ils n'ont rien à voir avec l'autre, avec ses repères et ses références. En fait, Adam et Ève, Adam et Chava en hébreu.
Chava. Et qu'est-ce que ça veut dire Chava?
Ça veut dire la vie, la vivante. Voilà. Le terrien et la vivante sont des figures originelles et finalement dans ce récit ils sont expulsés du jardin d'Éden, d'un monde idéalisé, ils se retrouvent en chemin. C'est comme ça selon la Bible que commence l'histoire avec un grand H, l'histoire de la conscience humaine. À chacun de juger quelle est la part de vérité selon lui de ce récit ou de fantasme. Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est juste une poésie? C'est à chacun d'en juger.
Ève Rava, la vivante. Delphine Horviller est rabbin et elle a écrit en tenue d'Ève.
On parle de l'altitude, toi et moi, loin de nous. Notre aptitude, celle qu'on avait à rester fier, ni l'un ni l'autre ne l'a. On perd notre temps à se perdre tout le temps, loin de nous, ni l'un ni l'autre n'aura perdu, perdu, perdu temps. Perdu, tous ces gens m'avaient prévenu. On descend, on l'a voulu. Perdu, sans s'entendre sur notre. Du plaisir, même si j'y perds ma liberté. Vouloir succès, les gens, les autres. Donc qu'est-ce qu'on va devenir?
C'était Angèle, perdue. Angèle qui sera les 18 et 19 février à Paris et le 13 mars à Saint-Lô, en Normandie. Vous connaissez la ville de Saint-Lô, mais connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Lô ?
Les petits bateaux sur France Inter.
La réflexion que je me faisais pour Lô, ça vaut pour Clou, Saint-Clou. Vous connaissez des gens qui s'appellent Clou ? Si vous aviez des jumeaux, les appelleriez-vous Clou et Lô ? Bon, j'arrête. Je vous donne notre numéro de téléphone que j'ai donné un peu vite tout à l'heure. 01 56 40 43 57. Vous appelez ce répondeur quand vous voulez. Vous lui parlez comme vous voulez, au rythme que vous voulez. Il entend tout.
Bonjour, je m'appelle Raphaël. J'ai 6 ans et demi et je voudrais savoir comment la peste a disparu aujourd'hui. Oh, merci, au revoir.
Bonsoir Raphaël. Philippe Charlier est médecin, légiste, archéo-anthropologue. C'est la médecine, on pourrait dire la médecine d'avant pour faire le résumé de l'affiche.
C'est la médecine des morts.
C'est la médecine des morts. Alors, cette question de Raphaël, comment la peste a disparu aujourd'hui ? D'abord, a-t-il raison ?
Eh bien, Raphaël, tu as en partie raison. La peste a en grande partie disparu, mais elle existe encore dans deux endroits. La première, c'est dans les laboratoires et dans les squelettes, parce que la peste est encore identifiable sur tous ces squelettes de pestiférés qui datent du Moyen-Âge en France et en Europe. Et puis malheureusement, eh bien, la peste n'a pas disparu dans d'autres pays un petit peu plus éloignés. Il y a toujours des foyers de peste, que ce soit en Inde, que ce soit à Madagascar. Et encore là, on parle de la peste humaine, car il y a d'autres pestes, des pestes qui touchent les animaux. Et c'est une maladie qui a disparu, ou du moins qui a diminué en importance grâce à l'apparition des antibiotiques, grâce à la lutte contre les rats qui infestaient les villes auparavant. Et les rats étaient porteurs d'une puce qui, elle, transportait la bactérie responsable de la peste. Donc c'est avec un assainissement progressif, avec l'apparition des antibiotiques, avec l'amélioration des conditions de vie en Europe que la peste a quasiment disparu. Malheureusement, ailleurs qu'en Europe, dans des pays du Pacifique par exemple, de l'Asie et de l'Afrique, eh bien, la peste persiste encore. Il faudra peut-être attendre pas mal d'années pour une éradication complète de cette maladie.
Philippe Charlier, vous avez dit dans des squelettes, vous travaillez avec, c'est votre métier d'être j'allais dire de mettre les mains dedans, c'est pas du cambouis des squelettes, mais quand même, vous avez les mains dedans, vous risquez pas de l'attraper.
Oui, ce sont mes patients, et au même titre que n'importe quel patient vivant, on a un risque d'attraper une maladie, sauf que là, la peste n'est plus vivace, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on a encore son empreinte génétique, on voit encore son ADN, on a encore parfois, on peut voir le bacille au microscope, éventuellement, mais il n'est plus contaminant. En revanche, il peut l'être si jamais le corps a été congelé dans le permafrost, ce qu'on appelle aussi le pergisol. C'est cette couche de terre qui est congelée de façon permanente pendant toute l'année, sauf que maintenant, avec le réchauffement climatique, eh bien ça dégèle et ça peut relarguer des agents infectieux. Pour l'instant, la peste n'en fait pas partie. Ce sont plutôt des virus qu'on appelle les pandoravirus, par exemple, qui ont été endormis pendant des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années, et qui, eux, sont potentiellement toujours vivaces. Pour les bactéries, c'est plus compliqué, Jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé qui puisse survivre sur une durée aussi longue, sauf une qui s'appelle le charbon. Et il y a malheureusement un petit garçon et plusieurs milliers de rennes qui sont morts parce qu'un renne contaminé il y a une centaine d'années était mort, avait été enterré dans le permafrost. Il a décongelé et malheureusement, eh bien, la bactérie s'est retrouvée chez les vivants qu'elle a bientôt tués.
Vous pouvez lire ou relire le passionnant livre de Fred Vargas, « Pars vite et reviens tard, il y est question de peste ». Et puis, il y a quelque temps, Jean-Noël Jeanneney, notre ancien président, a proposé sur France Culture une émission sur les rats avec Michel Pastoureau, absolument passionnante, à réécouter sur franceculture.fr.
Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 11 ans et je voudrais savoir pourquoi quelques animaux avant de se coucher, tourne autour de l'endroit choisi. Merci. Au revoir les petits bateaux.
Bonsoir Nicolas. Brice Le Faux, vous êtes docteur vétérinaire, vous êtes directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse. C'est bien observé, non ?
Ah oui, c'est très bien observé. Le chat ou le chien, surtout le chien, c'est vraiment très très typique. Le loup fait la même chose.
Ah oui, le loup aussi, il tourne comme ça ?
Tous les canidés en fait. Vraiment tous les canidés, même les canidés les plus lointains du chien, les cousins les plus lointains comme le chrysotion, le fameux loup à crinière, oui. Il le fait. Eh bien, c'est une technique qui est employée, c'est assez bien observé, c'est une technique qui est employée pour, on pense, hein, c'est un avantage pour éviter le parasitisme. Et c'est le même type de comportement qu'on va retrouver, par exemple, chez les bonobos qui vont refaire un nid, souvent différent, tous les soirs. Comme ça, s'il y a des parasites dans le nid, ils ne se recontaminent pas. Et pour préparer sa couche, le chien, en fait, va faire plusieurs fois le tour, vérifier qu'il n'y ait pas de serpents ou de choses comme ça. En même temps, ça lui permet d'aplanir sa couche et donc il va pouvoir s'allonger en toute tranquillité. Ce comportement-là, on va le retrouver aussi dans d'autres évitements de parasitisme chez le cheval. Un cheval dans une pâture, s'il n'est pas tout le temps en boxe, il va dans une pâture, utiliser une partie de la pâture pour faire ses besoins et une autre partie de la pâture pour manger. Donc il va éviter de contaminer ce qu'il va manger. Donc c'est des comportements d'évitement de parasitisme.
Nars Barclay, Crazy sur France Inter, où vous avez la bonne idée d'écouter les petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 17 ans et j'aimerais savoir si c'est seulement les adultes qui peuvent être pédophiles. Merci, au revoir.
Bonsoir Héloïse. Pierre-Brice Lebrun, vous êtes enseignant en droit dans le secteur social et médico-social. Vous êtes également auteur d'ouvrages dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, pouvez-vous lui répondre? C'est subtil comme question.
Alors oui, c'est très subtil. La question est très intéressante, mais effectivement, la réponse est un peu délicate. On va d'abord définir pédophile. Si on prend simplement la racine grecque, un pédophile, c'est quelqu'un qui aime les enfants. Et on retrouve le pédo dans pédiatre, dans le pédagogue et dans plein de mots.
Phil aimé.
Voilà, Phil, c'est aimé. Et donc, on l'emploie en France pour désigner les adultes qui ont une attirance sexuelle pour les enfants. On devrait probablement utiliser, préférer, en vocabulaire courant, le terme de pédocriminel, justement pour enlever ce côté positif d'aimer les enfants, pour avoir quelque chose de plus clair, pédocriminel.
Garder l'agression.
Garder l'agression, parce qu'il est interdit en France d'avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans. C'est ce qu'on appelle la majorité sexuelle, c'est l'article 227-25 du Code pénal, qui autorise les mineurs à avoir des relations sexuelles avec des majeurs, à condition que le mineur, d'abord évidemment, soit consentant et soit réellement consentant, sans pression, sans cadeau, sans rien, réellement consentant, et qu'il ait plus de 15 ans. Puis une autre condition, c'est qu'il ne faut pas que cette personne majeure ait autorité sur le mineur. Quelque autorité que ce soit une autorité familiale, une autorité professionnelle, ou même une autorité ponctuelle, quelqu'un qui abuserait ponctuellement du peu d'autorité qu'il a pour obtenir une relation ou des faveurs sexuelles de la part d'un mineur.
Pour éviter une influence, j'imagine.
Pour éviter l'influence, oui, puisque les mineurs sont considérés par la loi comme vulnérables, donc particulièrement influençables. Et d'ailleurs, quand on s'attaque à un mineur, que ce soit de manière physique ou de manière sexuelle, ou même de manière psychologique, c'est toujours une circonstance aggravante, parce qu'on part du principe que le mineur, comme d'autres catégories de la population, doit être un peu plus protégé de par leur vulnérabilité. Alors le mot pédophile ou pédophilie, c'est pas inscrit dans la loi. On ne parle pas de pédophile ou de pédophilie dans le code pénal. On va utiliser des termes plus juridiques, comme par exemple agresseur sexuel sur mineur de 15 ans, etc., etc. Alors à la question, est-ce qu'un mineur peut être pédophile? C'est compliqué de répondre parce que légalement, les mineurs peuvent avoir entre eux en France des relations sexuelles consenties, quel que soit leur âge. Donc, toujours sur la base du consentement, il n'y a pas d'âge en dessous duquel un mineur ne peut pas avoir avec un autre mineur des relations sexuelles.
Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un enfant porte plainte contre un autre enfant pour agression sexuelle?
Oui, souvent, et même pour des infractions plus graves comme le viol, par exemple. Mais dans ce cas-là, ce ne sont pas des relations sexuelles consenties. Donc la plainte repose toujours sur l'absence de consentement, qui peut être violente ou pas. On ne se rend pas compte, souvent, qu'un viol peut n'avoir aucune violence physique sur un enfant comme sur un adulte, mais que la contrainte peut être telle que la victime ne se défend pas, ne s'exprime pas, et parfois même ne dit pas non, même si elle le pense extrêmement fort. Elle n'a pas la force physique et psychologique de faire face à cette agression.
De s'opposer.
Voilà, exactement. Et l'article 227-25, donc, qui crée cette majorité sexuelle, a été réécrit récemment. Il n'est pas beaucoup plus clair, puisque l'idée, c'était, et ça n'a malheureusement pas été fait, de donner un âge en dessous duquel il n'y aurait pas de consentement pour une relation sexuelle mineure-majeure. Pour l'instant, on s'arrête sur cette notion de 15 ans qui est dans la loi, qui est un peu floue. Elle aurait dû être précisée, elle ne l'a pas été. Et cette majorité sexuelle, elle date de 1945, pour les filles comme pour les garçons. Il n'y a jamais eu de différence. Il y a une légende qui dit pour les filles, c'est 15 ans, 15 ans et 3 mois. Ça a toujours été le même âge, 15 ans. Et depuis 1982, une des lois Badinter a rajouté les relations homosexuelles, puisqu'en 45, ça ne concernait que les relations hétérosexuelles.
Pierre-Brice Lebrun a écrit « La protection de l'enfance en 25 notions » édité chez Duno. Cet ouvrage s'adresse aux professionnels, mais il est tellement clair et simple qu'il est à mettre entre toutes les mains. Allez, avant de nous quitter, je vous lis la phrase qu'il y a en exergue de ce livre. « Le lecteur mérite deux choses. Que l'on ne l'ennuie jamais et qu'on parle aussi parfois à son intelligence. » Albert Camus. Ces petits bateaux sont à réécouter sur franceinter.fr. Merci à Alexandre Chenet, à Eliane Gérard, à Marjorie de Voucou et à Noël Bryam-Tang, j'y suis. Rendez-vous dimanche prochain à 19h30. Je vous laisse avec Denis Chessou.